Chapitre 2, dans lequel Kin Fo et le philosophe Wang sont posés d'une façon plus nette. Si Kin Fo avait donné ce dîner d'adieu à ses amis de canton, c'est que c'était dans cette capitale de la province de Kwantung qu'il avait passé une partie de son adolescence. Des nombreux camarades que doit compter un jeune homme riche et généreux, les quatre invités du bateau Fleur étaient les seuls qui lui restassent à cette époque. Quant aux autres, dispersés au hasard de la vie, il eut vainement cherché à les réunir. Kin Fo habitait alors Shanghai et, pour faire changer d'air à son ennui, il était venu le promener pendant quelques jours à Canton. Mais ce soir même, il devait prendre le steamer qui fait escale aux points principaux de la côte et revenir tranquillement à son yamen. Si Wang avait accompagné Kin Fo, c'est que le philosophe ne quittait jamais son élève, auquel les leçons ne manquaient pas. À vrai dire, celui-ci n'en tenait aucun compte, autant de maximes et de sentences perdues. Mais la machine à théorie, ainsi que l'avait dit ce viveur de Tim, ne se fatiguait pas d'en produire. Kin Fo était bien le type de ces Chinois du Nord, dont la race tente à se transformer, et qui ne se sont jamais ralliés aux Tartares. On n'eût pas rencontré son pareil dans les provinces du Sud, où les hautes et basses classes se sont plus intimement mélangées avec la race mandchoue. Kin Fo, ni par son père ni par sa mère, dont les familles, depuis la conquête, se tenaient à l'écart, n'avait une goutte de sang tartare dans les veines. Grand, bien bâti, plutôt blanc que jaune, les sourcils tracés en droite ligne, les yeux disposés suivant l'horizontale et se relevant à peine vers les tempes, le nez droit, la face non aplatie, il eût été remarqué même auprès des plus beaux spécimens des populations de l'Occident. En effet, si Kin Fo se montrait chinois, ce n'était que par son crâne soigneusement rasé, son front et son cou sans un poil, sa magnifique queue qui, prenant naissance à l'occiput, se déroulait sur son dos comme un serpent de jais. Très soigné de sa personne, il portait une fine moustache, faisant demi-cercle autour de sa lèvre supérieure, et une mouche qui figurait exactement au-dessous le point d'orgue de l'écriture musicale. Ses ongles s'allongeaient de plus d'un centimètre, preuve qu'il appartenait bien à cette catégorie de gens fortunés qui peuvent vivre sans rien faire. Peut-être aussi la nonchalance de sa démarche, le hautain de son attitude, ajoutait-il encore à ce « comme il faut » qui se dégageait de toute sa personne. D'ailleurs, Kin Fo était né à Pékin, avantage dont les Chinois se montrent très fiers. À qui l'interrogeait, il pouvait superbement répondre « je suis d'en haut ». C'était à Pékin, en effet, que son père Chung Ye-woo demeurait au moment de sa naissance et il avait 6 ans lorsque celui-ci vint se fixer définitivement à Shanghai. Ce digne Chinois, d'une excellente famille du nord de l'Empire, possédait, comme ses compatriotes, de remarquables aptitudes pour le commerce. Pendant les premières années de sa carrière, tout ce que produit ce riche territoire si peuplé, papier de Suato, soierie de Suzhou, sucre candi de Formose, thé de Hankou et de Fuzhou, fer du Honan, cuivre rouge ou jaune de la province de Yunnan, tout fut pour lui élément de négoce et matière à trafic. Sa principale maison de commerce, son Hong, était à Shanghai, mais il possédait des comptoirs à Nanking, à Tientsin, à Macao, à Hong Kong. Très mêlé au mouvement européen, c'était les steamers anglais qui transportaient ses marchandises, c'était le câble électrique qui lui donnait le cours des soieries à Lyon et de l'opium à Calcutta. Aucun de ses agents du progrès, vapeur ou électricité, ne le trouvait réfractaire, ainsi que le sont la plupart des Chinois, sous l'influence des mandarins et du gouvernement, dont ce progrès diminue peu à peu le prestige. Bref, Chung Ye-woo manœuvra si habilement, aussi bien dans son commerce avec l'intérieur de l'Empire que dans ses transactions avec les maisons portugaises, françaises, anglaises ou américaines de Shanghai, de Macao et de Hong Kong, qu'au moment où Kin Fo venait au monde, sa fortune dépassait déjà 400 000 dollars. Or, pendant les années qui suivirent, cette épargne allait être doublée grâce à la création d'un trafic nouveau qu'on pourrait appeler le commerce des colis du Nouveau Monde. On sait, en effet, que la population de la Chine est surabondante et hors de proportion avec l'étendue de ce vaste territoire, diversement mais poétiquement nommé Céleste Empire, Empire du Milieu, Empire ou Terre des Fleurs. On ne l'évalue pas à moins de 360 millions d'habitants. C'est presque un tiers de la population de toute la Terre. Or, si peu que mange le Chinois pauvre, il mange. Et la Chine, même avec ses nombreuses rizières, ses immenses cultures de millet et de blé, ne suffit pas à le nourrir. De là un trop-plein qui ne demande qu'à s'échapper par ces trouées que les canons anglais et français ont faites aux murailles matérielles et morales du Céleste Empire. C'est vers l'Amérique du Nord et principalement sur l'État de Californie que s'est déversé ce trop-plein. Mais cela s'est fait avec une telle violence que le Congrès a dû prendre des mesures restrictives contre cette invasion, assez impoliment nommée la peste jaune. Ainsi qu'on l'a fait observer, 50 millions d'émigrants chinois aux États-Unis n'auraient pas sensiblement amoindri la Chine et c'eût été l'absorption de la race anglo-saxonne au profit de la race mongole. Quoi qu'il en soit, l'exode se fit sur une vaste échelle. Ces colis, vivant d'une poignée de riz, d'une tasse de thé et d'une pipe de tabac, aptes à tous les métiers, réussirent rapidement au lac Salé, en Virginie, dans l'Oregon et surtout dans l'État de Californie, où ils abaissèrent considérablement le prix de la main-d'œuvre. Des compagnies se formèrent donc pour le transport de ces émigrants si peu coûteux. On en compta 5 qui opéraient le racolage dans 5 provinces du Céleste Empire et une 6e fixée à San Francisco. Les premières expédiaient, la dernière recevait la marchandise. Une agence annexe, celle de Ting Tong, la réexpédiait. Ceci demande une explication. Les Chinois veulent bien s'expatrier et aller chercher fortune chez les Mélicains, nom qu'ils donnent aux populations des États-Unis, mais à une condition, c'est que leurs cadavres seront fidèlement ramenés à la terre natale pour y être enterrés. C'est une des conditions principales du contrat, une clause sine qua non qui oblige les compagnies envers les migrants et que rien ne saurait faire éluder. Aussi, la Ting Tong, autrement dit l'agence des morts, disposant de fonds particuliers, est-elle chargée de fretter les navires à cadavres qui repartent à pleine charge de San Francisco pour Shanghai, Hong Kong ou Tientsin. Nouveau commerce, nouvelle source de bénéfices. L'habile et entreprenant Chung Ye-woo sentit cela. Au moment où il mourut, en 1866, il était directeur de la compagnie de Kuangtan, dans la province de ce nom, et sous-directeur de la Caisse des fonds des morts à San Francisco. Ce jour-là, Kin Fo, n'ayant plus ni père ni mère, héritait d'une fortune évaluée à 4 millions de francs, placée en action de la Centrale Banque californienne, qu'il eut le bon sens de garder. Au moment où il perdit son père, le jeune héritier, âgé de 19 ans, se fut trouvé seul s'il n'eut eu Wang, l'inséparable Wang, pour lui tenir lieu de mentor et d'ami. Or, qu'était ce Wang ? Depuis 17 ans, il vivait dans le Yamen de Shanghai. Il avait été le commensal du père avant d'être celui du fils. Mais d'où venait-il ? À quel passé pouvait-on le rattacher ? Autant de questions assez obscures auxquelles Chung Ye-woo et Kin Fo auraient seuls pu répondre. Et s'ils avaient jugé convenable de le faire, ce qui n'était pas probable, voici ce que l'on eût appris. Personne n'ignore que la Chine est, par excellence, le royaume où les insurrections peuvent durer pendant bien des années et soulever des centaines de mille hommes. Or, au XVIIe siècle, la célèbre dynastie des Ming, d'origine chinoise, régnait depuis 300 ans sur la Chine lorsque, en 1644, le chef de cette dynastie, trop faible contre les rebelles qui menaçaient la capitale, demanda secours à un roi tartare. Le roi ne se fit pas prier, accourut, chassa les révoltés, profita de la situation pour renverser celui qui avait imploré son aide et proclama empereur son propre fils, Shun Che. À partir de cette époque, l'autorité tartare fut substituée à l'autorité chinoise et le trône occupé par des empereurs mandchous. Peu à peu, surtout dans les classes inférieures de la population, les deux races se confondirent. Mais, chez les familles riches du Nord, la séparation entre Chinois et Tartares se maintint plus strictement. Aussi le type se distingue-t-il encore, et plus particulièrement au milieu des provinces septentrionales de l'Empire. Là se cantonnèrent des irréconciliables qui restèrent fidèles à la dynastie déchue. Le père de Kin Fo était de ces derniers, et il ne démentit pas les traditions de sa famille qui avait refusé de pactiser avec les Tartares. Un soulèvement contre la domination étrangère, même après 300 ans d'exercice, l'eût trouvé prêt à agir. Inutile d'ajouter que son fils Kin Fo partageait absolument ses opinions politiques. Or, en 1860, régnait encore cet empereur Xian Fong qui déclara la guerre à l'Angleterre et à la France, guerre terminée par le traité de Pékin le 25 octobre de la dite année. Mais, avant cette époque, un formidable soulèvement menaçait déjà la dynastie régnante. Les Chang Mao ou Tai Ping, les rebelles aux longs cheveux, s'étaient emparés de Nanking en 1853 et de Shanghai en 1855. Xian Fong mort, son jeune fils eut fort à faire pour repousser les Tai Ping. Sans le vice-roi Li, sans le prince Kong, et surtout sans le colonel anglais Gordon, peut-être n'eût-il pu sauver son trône. C'est que ces Tai Ping, ennemis déclarés des Tartares, fortement organisés pour la rébellion, voulaient remplacer la dynastie des Tsing par celle des Wang. Ils formaient quatre bandes distinctes. La première à bannière noire, chargée de tuer. La seconde à bannière rouge, chargée d'incendier. La troisième à bannière jaune, chargée de piller. La quatrième à bannière blanche, chargée d'approvisionner les trois autres. Il y eut d'importantes opérations militaires dans le Jiangsu. Su Cheou et Kia Ying, à 5 lieues de Shanghai, tombèrent au pouvoir des révoltés et furent repris, non sans peine, par les troupes impériales. Shanghai, très menacée, était même attaquée le 18 août 1860, au moment où les généraux Grant et Montauban, commandant l'armée anglo-française, canonnaient les forts du Peiho. À cette époque, Chung Geou, le père de Kin Fo, occupait une habitation près de Shanghai, non loin du magnifique pont que les ingénieurs chinois avaient jeté sur la rivière de Su Cheou. Ce soulèvement des Tai Ping, il n'avait pu le voir d'un mauvais œil, puisqu'il était principalement dirigé contre la dynastie Tartare. Ce fut donc dans ces conditions que, le soir du 18 août, après que les rebelles eurent été rejetés hors de Shanghai, la porte de l'habitation de Chung Geou s'ouvrit brusquement. Un fuyard, ayant pu dépister ceux qui le poursuivaient, vint tomber aux pieds de Chung Geou. Ce malheureux n'avait plus une arme pour se défendre. Si celui auquel il venait demander asile le livrait à la soldatesque impériale, il était perdu. Le père de Kin Fo n'était pas homme à trahir un Tai Ping qui avait cherché refuge dans sa maison. Il referma la porte et dit « Je ne veux pas savoir, je ne saurai jamais qui tu es, ce que tu as fait, d'où tu viens. Tu es mon hôte et par cela seul en sûreté chez moi. » Le fugitif voulut parler pour exprimer sa reconnaissance. Il en avait à peine la force. « Ton nom ?» lui demanda Chung Geou. « Wang. » C'était Wang, en effet, sauvé par la générosité de Chung Geou, générosité qui aurait coûté la vie à ce dernier si l'on avait soupçonné qu'il donnât asile à un rebelle. Mais Chung Geou était de ces hommes antiques à qui tout hôte est sacré. Quelques années après, le soulèvement des rebelles était définitivement réprimé. En 1864, l'empereur Taiping, assiégé dans Nanking, s'empoisonnait pour ne pas tomber aux mains des impériaux. Wang, depuis ce jour, resta dans la maison de son bienfaiteur. Jamais il n'eut à répondre de son passé. Personne ne l'interrogea à cet égard. Peut-être craignait-on d'en apprendre trop. Les atrocités commises par les révoltés avaient été, dit-on, épouvantables. Sous quelle bannière avait servi Wang? La jaune, la rouge, la noire ou la blanche? Mieux valait l'ignorer, en somme, et conserver l'illusion qu'il n'avait appartenu qu'à la colonne de ravitaillement. Wang, enchanté de son sort d'ailleurs, demeura donc le commensal de cette hospitalière maison. Après la mort de Chung-geu, son fils n'eut garde de se séparer de lui, tant il était habitué à la compagnie de cet aimable personnage. Mais en vérité, à l'époque où commence cette histoire, qui eût jamais reconnu un ancien Taiping, un massacreur, un pillard ou un incendiaire, au choix, dans ce philosophe de 55 ans, ce moraliste à lunettes, ce chinois chinoisant, yeux relevés vers les tempes, moustache traditionnelle? Avec sa longue robe de couleur peu voyante, sa ceinture relevée sur la poitrine par un commencement d'obésité, sa coiffure réglée suivant le décret impérial, c'est-à-dire un chapeau de fourrure au bord dressé le long d'une calotte d'où s'échappaient des houppes de filets rouges, n'avait-il pas l'air d'un brave professeur de philosophie, de l'un de ces savants qui font couramment usage des 80 000 caractères de l'écriture chinoise, d'un lettré du dialecte supérieur, d'un premier lauréat de l'examen des docteurs, ayant le droit de passer sous la grande porte de Pékin, réservée aux fils du ciel? Peut-être, après tout, oubliant un passé plein d'horreur, le rebelle s'était-il bonifié au contact de l'honnête Chung-geu et avait-il tout doucement bifurqué sur le chemin de la philosophie spéculative? Et voilà pourquoi ce soir-là, Kin Fo et Wang, qui ne se quittaient jamais, étaient ensemble à Canton. Pourquoi, après ce dîner d'adieu, tous deux s'en allaient par les quais à la recherche du steamer qui devait les ramener rapidement à Shanghai. Kin Fo marchait en silence, un peu soucieux même. Wang regardant à droite, à gauche, philosophant à la lune, aux étoiles, passait en souriant sous la porte de l'éternelle pureté qu'il ne trouvait pas trop haute pour lui, sous la porte de l'éternelle joie dont les battants lui semblaient ouverts sur sa propre existence, et il vit enfin se perdre dans l'ombre les tours de la pagode des 500 divinités. Le steamer Perma était là, sous pression. Kin Fo et Wang s'installèrent dans les deux cabines retenues pour eux. Le rapide courant du fleuve des perles, qui entraîne quotidiennement avec la fange de ses berges des corps de suppliciés, imprima au bateau une extrême vitesse. Le steamer passa comme une flèche entre les ruines laissées çà et là par les canons français, devant la pagode à 9 étages de Halfway, devant la pointe Jardine, près de Whampoa, où mouillent les plus gros bâtiments, entre les îlots et les estacades de bambous des deux rives. Les 150 kilomètres, c'est-à-dire les 375 lis qui séparent Canton de l'embouchure du fleuve, furent franchis dans la nuit. Au lever du soleil, le Perma dépassait la gueule du Tigre, puis les deux barres de l'estuaire. Le Victoria Peak de l'île de Hong Kong, haut de 1825 pieds, apparut un instant dans la brume matinale, et, après la plus heureuse des traversées, Kin Fo et le philosophe, refoulant les eaux jaunâtres du fleuve bleu, débarquaient à Shanghai, sur le littoral de la province de Qiangnan.